Bien, nous allons commencer le chapitre « Qu'est-ce que l'hypnose ?». Alors là, c'est un vaste débat. Nous allons l'aborder en plusieurs thèmes. D'abord, nous allons voir quelques différentes théories avec quelques auteurs, dont notamment... on va revenir là-dessus, je vais rentrer dans le détail plus tard. Donc, premier point, quelques différentes théories, théories psychologiques, psychanalytiques et le processus physiologique et psychologique. Le deuxième point, ce sera quelques définitions. Le troisième point, nous allons voir quelques idées fausses sur l'hypnose, idées fausses que nous... développeront dans le et compléteront dans le chapitre 4 du manuel et des cours. Et enfin, quatrième point pour cette définition, qu'est-ce que l'hypnose, pour ce chapitre, qu'est-ce que l'hypnose. Le quatrième point, donc, ça sera notre propre définition, quelque part, celle que nous considérons humblement, mais nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, comme la définition la plus raisonnable. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'hypnose et qu'est-ce que l'hypnose. En même temps, et c'est un peu la force de notre métier et la force de nos compétences, c'est qu'il faut rester humble. Nous travaillons sur un terrain, et ça nous le répétons régulièrement, nous travaillons sur un terrain qui est le cerveau que nous ne connaissons pas, que la science ne connaît pas, ou très peu, hein. Les plus humbles des scientifiques et les plus honnêtes vous diront qu'ils ne le connaissent pas. Et à l'intérieur de ce cerveau, il y a une théorie qui est la théorie de l'inconscient que Freud a développée ou synthétisée. L'inconscient, c'est donc, comme on l'a vu, notre banque émotionnelle, le réceptacle de toutes nos émotions, nos affects, et c'est celui aussi par... un mécanisme dynamique qui transforme également ces émotions et qui fait ce que nous sommes et qui nous fonde. Donc en fait, on travaille sur un terrain qu'on ne connaît pas, et partant de là, on voudrait donner une définition, la définition de l'hypnose. Alors, bien évidemment, là, on est dans un conflit, c'est antinomique, on ne peut pas donner une définition de quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Bon, toutefois, certains, et c'est pas inintéressant, se sont attardés sur le phénomène. Donc, nous avons plusieurs théories. Alors, je vais vous citer quelques théories avec quelques auteurs que vous pourrez approfondir. Je vous le dis tout de suite, je pense que c'est absolument inutile. Voilà, si ce n'est à titre de curiosité, hein, scientifique, vous pourrez l'approfondir en consultant ces auteurs. Je vais vous donner les noms. Si vous souhaitez plus de références biographiques avec ces noms, ils ne sont pas à la fin du manuel, mais vous me contacterez par email ou téléphone ou Skype et je vous donnerai plus de références. Donc, le premier point, c'est quelques différentes théories. On va commencer par les théories neurophysiologiques. Alors, le plus connu, finalement, l'ancêtre des théories neurophysiologiques est Pavlov et sa conception selon laquelle l'hypnose est un sommeil partiel, un état intermédiaire entre l'état de veille et de sommeil. Alors Pavlov, hein, vous le connaissez, c'est le fameux réflexe de Pavlov, le soviétique, vous tapez sur un marteau plusieurs fois sur un muscle et celui-ci va réagir, vous ne tapez pas et il va quand même réagir. Bon, vous vous documenterez là-dessus. Encore une fois, dans la pratique, en cabinet, on ne l'utilise pas vraiment, on n'en a pas une utilité fondamentale de la connaissance de ces théories et de ces définitions pour savoir ce qu'est l'hypnose. Par contre, et ça sera intéressant, et ça sera l'objet du quatrième point de notre cours, notre définition raisonnable, comme je l'appelle, et comme d'autres l'appellent, celle-là est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante et peut-être plus proche de la vérité que toutes les théories qu'on peut voir auparavant, pseudo-scientifiques. Donc dans la théorie dans les théories neurophysiologiques, nous avons Pavlov, si vous voulez approfondir, Breed, MacLean également et Howarth dans les années 70. Il y a également Raikov, voilà, il y en a d'autres, Bartlett, de Moares Passos aussi, un portugais assez intéressant. Voilà. Alors, deuxième théorie, la théorie psychologique, les théories psychologiques, dont la fameuse théorie de la dissociation de Janet. Voilà, celle-ci, elle a été longtemps considérée comme l'une des plus crédibles. Bon, la dissociation de la théorie de la dissociation de Janet, c'est la manifestation fondamentale. Alors là, je lis mes notes. Hein. La manifestation fondamentale étant le rétrécissement du champ de la conscience. À partir de sa conception de l'hystérie, Janet considère comme la conséquence d'un clivage, d'une dissociation de la conscience. Voilà, il affirme que l'hypnose provoque artificiellement un processus analogue. Cela permet d'expliquer des phénomènes hypnotiques tels que la catalepsie, l'anesthésie et l'amnésie post-hypnotique. Bon, après, il différencie différents niveaux de comportement, etc., etc. Bon, c'est très intéressant. Ça rejoint les conceptions de Erickson, Milton Erickson, notamment dans la disparition des barrières entre l'inconscient et le conscient pendant l'état hypnotique. Mais encore une fois, ce n'est qu'une théorie, et les théories en hypnose, on s'en méfie beaucoup. Ce qui compte toujours dans l'hypnose, c'est la pratique. Nous avons aussi la théorie de la psychologie expérimentale, toujours dans le domaine des théories psychologiques, hein, comme la dissociation de Janet, avec le fameux White, qui introduit le point de vue motivationnel dans la relation hypnotique, c'est-à-dire que l'hypnose qui devient alors un jeu, un apprentissage. Le sujet se comporterait conformément aux indications données par l'expérimentateur, c'est-à-dire le psychothérapeute. Bon, voilà, ça c'est. Bon, il y a différentes théories. Encore une fois, renseignez-vous, documentez-vous si ça vous intéresse. Pour notre part, on se concentre sur la pratique. Nos clients viennent nous voir parce qu'ils souffrent. Nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont des symptômes de souffrance ou des comportements négatifs. Et peu importe les théories, c'est-à-dire qu'une fois que le comportement négatif a disparu, une fois que la souffrance a disparu ou est pondérée, on le prend pour acquis et, excusez-moi le terme, alléluia, tout le monde est content. Alors, autre explication théorique de l'hypnose, il y a bien évidemment les théories psychanalytiques. Enfin, nous avons encore des théories qui tiennent compte des processus à la fois physiologiques et psychologiques. Donc là, nous avons entre autres comme auteur Schilder, qui attire l'attention, lui, sur l'importance des facteurs physiologiques dans le processus hypnotique. Alors, ça, bien évidemment, mais lesquels? Voilà, quel processus physiologique? Voilà, on est d'accord avec lui sur ce point-là, et ensuite on pose la question, lesquels? Excusez-moi, petit problème de micro. Alors, toujours dans comme Schilder, toujours dans les théories tenant compte des processus physiologiques et psychologiques, il y a aussi deux auteurs intéressants, Kuby et Margolin, qui sont les premiers à faire la synthèse articulant les processus à la fois psychologiques et physiologiques. Et notamment, ils distinguent, et ça c'est intéressant, deux aspects du phénomène. C'est-à-dire l'induction et l'état hypnotique proprement dit. Alors l'induction et l'état hypnotique, selon eux, diffèrent tant sur le plan physiologique que psychologique. Et ils partent du fait que l'hypnose peut être induite sans hypnotiseur, en fixant par exemple son attention sur sa propre respiration, en lâchant prise, quoi, un peu comme en méditation. Et il montre aussi quelque chose qui est fondamental. Il montre que dans la phase d'induction, le transfert n'est pas indispensable. Bref, les théories qui tiennent compte des processus à la fois psychologiques et physiologiques, bah, ce sont bien évidemment celles qui paraissent les plus raisonnables, même si elles ont été posées dans les années 30, 40, 50. De toute façon, on n'a pas avancé beaucoup plus en la matière. On ne connaît pas plus le cerveau, on ne connaît pas plus l'inconscient, on ne connaît pas plus l'hypnose et les phénomènes hypnotiques. Voilà, donc pour conclure, on va dire que toutes ces théories, hein, qu'elles soient d'ordre psychologique, psychanalytique et processus qui tiennent compte à la fois des deux, hein, psychologique et physiologique, ce sont des niveaux d'explication du phénomène. Ça, c'est certain, mais en eux-mêmes, en elles-mêmes, elles ne peuvent que s'interpréter et elles ne peuvent pas proposer une conception d'ensemble du phénomène hypnotique, bien évidemment. Donc c'est toujours un aspect partiel, un aspect partiel, mais qui n'est toujours pas validé par la science. Donc quelque part, à un moment donné, il faut aussi arrêter de se poser la question si c'est pas validé par la science. Ça le sera ultérieurement peut-être, ou ça ne le sera peut-être jamais. Alors, on l'accepte, on cesse de dépenser de l'énergie à essayer de comprendre ce qui aujourd'hui n'est pas intelligible et pour lesquels on n'a pas les réponses. Et ça aussi, il faut parfois le faire comprendre à nos clients ou à nos patients. On attend d'avoir plus d'éléments ultérieurement si ces événements viennent. En attendant, on constate que l'hypnose fonctionne, que les thérapies d'ordre psychanalytique ou autres thérapies sont sans commune mesure, n'ont pas des résultats avec ce que l'on peut connaître en hypnothérapie. Alors maintenant, notre point de ce chapitre sur l'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose ? Ce sont les définitions. Alors là, on a toute une foultitude de définitions qui sont toutes plus ou moins justes, toutes plus ou moins raisonnables. Et elles renvoient toutes à des concepts différents, tels que le sommeil, la suggestion, la suggestibilité, la modification d'état de conscience, la régression, le transfert, etc. Elles reflètent, en général, ces conceptions théoriques, les conceptions de leurs auteurs qui peuvent être radicalement opposées et où chacun se retrouvera selon, bien évidemment, ses propres convictions. Alors, nous allons en mentionner quelques-unes. Alors, parmi les rares définitions françaises, il y a celle de Porot, P-O-R-O-T, dans le manuel alphabétique de psychiatrie dans les années 50, qui limite l'hypnose à un sommeil incomplet de type spécial, provoqué artificiellement. Ensuite, il y a bien évidemment, et ça c'est plus intéressant, celle de Chertok, car elle se veut holistique, elle fait intervenir de nombreux paramètres biologiques, psychologiques et bien sûr sociologiques. Ensuite, il y a d'autres définitions qui prévalent dans les pays qui reconnaissent officiellement l'hypnose comme une technique médicale. Ainsi, en Union soviétique, alors là, l'hypnose et l'Union soviétique, c'est une histoire un peu particulière, hein. On l'a déjà vu, c'était reconnu dans le domaine médical car l'hypnose était essentiellement pratiquée, pour ne pas dire pratiquée exclusivement dans les hôpitaux psychiatriques sur des opposants politiques. Bon, on peut se demander ce qu'ils faisaient avec parce que, modifier des comportements de façon positive ou apporter du bien-être, ça me paraît extrêmement ténu que de vouloir faire du mal, si j'ose dire, et c'était la finalité que l'Union soviétique voulait appliquer aux détenus politiques dans les hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, ils ont dû faire des tentatives, des expérimentations, mais peut-être essayer de les faire parler sous hypnose, bien évidemment. Mais bon, ils avaient en l'occurrence des produits chimiques encore plus intéressants pour ce faire. Donc on revient à l'Union soviétique et sa définition de l'hypnose, notamment l'encyclopédie médicale de l'Union soviétique dans les années 80, qui définit l'hypnose comme un état artificiel particulier de l'homme, là je lis mes notes, hein, état artificiel particulier de l'homme produit par la suggestion qui se distingue par une sélectivité spécifique des réactions et se manifeste par une augmentation de la réceptivité à l'action psychologique de l'hypnotiseur et la diminution de la sensibilité aux autres influences. Voilà. Donc là, on trouve un peu de tout. Tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, a priori. Chacun y trouve un peu de tout. Après, il y a la définition britannique, ça c'est un peu plus ancien, des années 50 également. Donc la définition de l'hypnose pour la British Medical Association, qui est un état passager d'attention modifiée chez le sujet. Alors c'est un peu plus long, hein, je vais essayer de tout vous lire rapidement. Un état qui peut être produit par une autre personne et dans lequel divers phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à des stimuli verbaux ou autres. Alors là, par contre, pour le coup, tout à fait juste, hein. Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience et la mémoire, une susceptibilité accrue à la suggestion et l'apparition chez le sujet de réponses et d'idées qui ne lui sont pas familières dans son état d'esprit habituel. En outre, des phénomènes comme l'anesthésie, la paralysie, la rigidité musculaire, la catalepsie, et des modifications vasomotrices peuvent être dans l'état hypnotique produits ou supprimés. Voilà. Donc c'est relativement correct tout ce qui est dit dans cette définition de la British Medical Association. Vient ensuite l'American Psychiatric Association. Dans les années 60, l'hypnose, pour elle, l'hypnose est une méthode psychiatrique spécialisée. Et à ce titre, elle constitue un aspect des relations médecin-malade. Là on s'approche presque de la définition soviétique. Dans la pratique psychiatrique, l'hypnose fournit un adjuvant utilisable dans la recherche, le diagnostic, je tourne la page, et le traitement. Elle peut également rendre service dans d'autres secteurs de la pratique et de la recherche médicale. C'est-à-dire que dans les années 50, à l'époque finalement où Milton Erickson commence à développer l'hypnose ericksonienne, hein, beaucoup plus souple que la définition que vient de nous donner l'American Psychiatric Association. Donc dans les années 50, cette fameuse American Psychiatric Association nous donne une définition extrêmement scientifique et médicale de l'hypnose, tout en ne disant rien. C'est-à-dire qu'elle le rattache d'emblée à la psychiatrie, à la médecine et à la science, mais elle n'apporte strictement rien pour étayer sa définition de l'hypnose, ce qui est fondamentalement très intéressant et très fonctionnariste, si j'ose dire. Voilà. Alors, troisième point de ce chapitre. Alors, pour conclure sur ces définitions, comme toujours, je vous renvoie à plus de documentation, si vous le souhaitez, que ce soit sur le net, que ce soit dans des ouvrages, vous me demandez des biographies supplémentaires. Encore une fois, tout cela n'est vraiment pas fondamental. Mais il est quand même utile, voilà, de connaître ces polémiques, ces différentes écoles, ces différents clochers, ces différentes discussions plus ou moins véhémentes que l'histoire de l'hypnose a rencontrées. Et d'en posséder quelques éléments parce qu'on rencontre toujours certains patients ou clients ou d'autres personnes qui ont envie d'en discuter. Alors si vous êtes d'humeur à en discuter ce jour-là, bah, vous avez toujours quelques éléments particuliers. Et de toute façon, vous ferez vous-même vos propres concepts, votre propre théorie. Et en la matière, la plus sincère et la plus honnête sera certainement toujours la plus efficace. Donc troisième point de cette rubrique, de ce chapitre « Qu'est-ce que l'hypnose ?», ce sont quelques idées fausses concernant l'hypnose. Et là, on complétera ces quelques idées fausses avec d'autres que nous détaillerons dans le chapitre 4 du manuel et qui fera l'objet d'un podcast particulier, d'un cours particulier en podcast. Alors, l'hypnose est un état entièrement induit ou provoqué chez le sujet par l'hypnotiseur. Eh bien non, bien évidemment, l'hypnotiseur n'est pas un magicien, il n'a pas de capacité particulière métaphysique, et si le sujet lui-même n'est pas disposé à se mettre dans un état particulier, l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur pourra faire toutes les incantations de la Terre et tourner 1000 fois autour de son sujet en courant et en faisant Un appel à faisant un chant à la pluie, rien n'y fera. Donc l'hypnose, donc c'est une idée fausse. Hein. L'hypnose n'est pas induite uniquement par l'hypnotiseur. Autre idée fausse, un hypnotiseur doit être dynamique, énergique ou avoir une personnalité charismatique, voire mystérieuse. Seules les personnes faibles ou malades peuvent être hypnotisées. Voilà, tout cela est faux. Tout le monde peut être hypnotisé et on le verra tout au long des cours, tout au long des manuels. L'hypnose est un état naturel chez nous, un état de conscience modifié. Bon, on le développera dans le dernier point de ce chapitre. Et le fait que l'hypnotisé-thérapeute soit un être particulièrement charismatique ou mystérieux ou doué ou doté d'une énergie particulière ou d'une personnalité particulière n'y fait strictement rien, puisque j'aurais tendance à dire que ce n'est pas l'hypnothérapeute qui fait le travail, lui il va guider, ce n'est pas le patient qui fait le travail, lui il va générer des émotions, des sensations, des images, et finalement celui qui va faire le travail, c'est l'inconscient qui va capter tout ou partie de ces émotions, sensations, images générées, et qui va travailler avec comme il le fait lorsque nous sommes éveillés. Donc, peu importe la personnalité de l'hypnothérapeute et peu importe la personnalité de la personne qui va être hypnotisée. Alors, autre idée fausse, hein, l'hypnose entraîne un combat entre la volonté de l'hypnotisé et celle de l'hypnotiseur qui a besoin d'une volonté plus forte que celle du sujet. Bon, là, on a déjà répondu, dans la mesure où c'est l'inconscient qui fait le travail, peu importe. L'état d'hypnose, l'hypnose est un état inhabituel, anormal ou artificiel. Et là également, encore une fois, on en revient à cela, c'est un état naturel chez nous, un état de conscience modifié. Le sujet est sous le contrôle de l'hypnotiseur. Bien évidemment que non. L'hypnotiseur qui pourrait l'obliger à faire ce qu'il veut, qu'il n'a pas l'habitude de faire, qui l'entraînerait à révéler des secrets. Bien évidemment, si nous pouvions faire cela, les hypnothérapeutes ou les hypnotiseurs, eh bien nous serions les maîtres du monde et nous ne ferions probablement pas ce métier. Hein. Étant les maîtres du monde, on aurait déjà un travail bien complet et très occupé. Le sujet doit, et c'est évident, être volontaire en hypnose. Il peut sortir à tout moment de l'état hypnotique s'il le souhaite. Il n'est jamais mis en danger. Alors, autre idée fausse, l'hypnose peut être nocive pour le sujet. Ben non. Non, puisque depuis les années 50 et des millions de séances, on a énormément de retours sur ces séances. Dans le pire des cas, cela va rester neutre. C'est-à-dire que la problématique pour laquelle le patient va vous consulter ne va pas bouger positivement. Le comportement ne va pas s'améliorer ou la souffrance ne va pas se pondérer ou être supprimée. Cela va rester neutre, au même niveau, stable. Par contre, ce que l'on constate, c'est que ça ne va bien évidemment pas l'aggraver, ça c'est déjà dit, mais ce que l'on constate, c'est que potentiellement cela peut libérer d'autres émotions et donc agir positivement sur d'autres comportements et d'autres émotions. Alors, autre idée fausse, la suppression d'un symptôme entraîne l'apparition d'un nouveau symptôme. Ben là, je viens déjà de répondre à cela. Encore une autre idée fausse, les femmes sont plus hypnotisables que les hommes. Bon, alors si, là je suis un peu dubitatif, enfin je veux dire, je ne sais pas trop quoi dire, c'est un peu risible, à la limite ridicule. Alors bien évidemment, certains vont vous parler de sensibilité féminine, que l'on retrouve dans les cabinets psy au sens large, ou chez les hypnothérapeutes, plus de femmes que d'hommes. Bon, c'est pour vous parler d'expérience et de plusieurs décennies de clients en cabinet, je vois autant d'hommes que de femmes. Je n'ai jamais fait de statistiques précises, mais je ne pense pas non plus qu'il y ait une sensibilité particulière à l'hypnose, plus chez les femmes que chez les hommes. Voilà, donc on reviendra dans le chapitre 4 du manuel et dans un podcast ultérieur sur quelques idées fausses sur l'hypnose, parce que tout n'a pas été dit. Maintenant, nous sommes toujours dans cette rubrique, dans ce chapitre, qu'est-ce que l'hypnose? Et nous allons donc envisager maintenant, je reprends d'autres notes, notre propre définition de l'hypnose. Et c'est aussi quelque part la définition de Jano O'Hararo dont je vous ai parlé dans ce manuel intéressant. Alors, comme je vous le disais, nous pourrions nous perdre en conjectures, comme c'est écrit dans le manuel, et expliquer ce qui n'est pas explicable, puisqu'en la matière, nous n'avons pas scientifiquement les preuves de ce qu'est le cerveau, l'inconscient, l'état hypnotique, les différents états de sommeil. Nous ne savons pas comment se formalisent les émotions d'un point de vue technique, hein, et scientifique. Nous ne savons pas quels sont les mécanismes et le mode de fonctionnement du cerveau, de l'inconscient, quelle est la dynamique, quelle est l'économie de tout ce système. Voilà. Donc, par honnêteté intellectuelle, il faut surtout rester humble. Et lorsque vos clients et vos patients vous poseront des questions, savoir comment ça fonctionne, mais en l'occurrence, ils seront peu nombreux parce qu'ils se seront documentés avant de venir vous voir et avant de vous poser la question. Notre définition, en fait, c'est que l'hypnose est un état de conscience modifié. Alors, je donne un certain nombre d'exemples dans le manuel, à la page 6. Et je vais en fait vous faire la démonstration tout de suite de ce qu'est, pardon, cet état de conscience modifié. Vous écoutez ce cours en podcast. En parallèle, vous avez peut-être eu. Donc là, vous êtes dans un premier état de conscience. Vous êtes concentré sur le cours. Deuxième état de conscience, peut-être avez-vous pris des notes, certains mots-clés, certaines phrases, et peut-être aussi continuer à vous concentrer sur le discours que je tiens. Donc deux états de conscience. En même temps, vous pouvez très bien vous dire, ah, Monsieur Touraine, parfois il hésite, parfois il trébuche sur les mots, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, c'est comme ça. Troisième état de conscience, vous avez un jugement à ce moment-là. Quatrième état de conscience. Vous avez peut-être des pensées parasites. Vous pensez à ce que vous allez faire un peu plus tard, ce que vous avez oublié de faire dans la matinée, ce que vous auriez dû faire, ou une contrariété, etc., etc. Nous avons tous, à partir du moment où nous sommes éveillés, plusieurs états de conscience en parallèle. Et ces états de conscience nous servent à quoi? Eh bien, a priori, ils nous permettent, comme un vecteur, d'atteindre l'inconscient. Voilà, on pense que l'inconscient, comme nous l'avons déjà vu dans les théories, dans les quelques définitions de la conscience, du subconscient, qu'il y a cette zone tampon où l'inconscient est prêt, en alerte, il nous écoute, il est attentif, il va capter d'une manière que nous ne connaissons pas une nouvelle fois des matériaux. Ces matériaux, ce sont les pensées. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, que ce soient des pensées parasites, des pensées que l'on formalise volontairement, des pensées que l'on se laisse imposer, des images que l'on se laisse imposer ou des images que nous créons, etc., etc. Et tout cela rentre dans l'inconscient, il les travaille d'une manière autonome et nous les restitue. Et voilà, en fait, quel est le travail de l'hypnose. C'est-à-dire recevoir par cet état particulier des affects extérieurs, l'inconscient va les capter, il va les travailler et nous les restituer. Voilà ce que nous considérons comme la définition raisonnable de l'hypnose. Nous sommes donc fréquemment dans notre quotidien dans un état hypnotique. C'est donc, encore une fois, un état naturel pour nous les humains, et dans le manuel, je cite d'autres exemples. Lorsque nous sommes au téléphone, même si aujourd'hui c'est moins autorisé qu'auparavant, au téléphone dans notre véhicule, on va écraser personne, on va suivre les indications de la route, ou alors lorsque nous entendons une musique de façon consciente ou juste quelques mots qui vont, entre guillemets, s'incruster dans notre esprit à un moment donné, et ultérieurement, ces mots ou cet air, cette mélodie vont nous amener à développer des pensées particulières au fil de la journée. Voilà, nous recevons encore une fois en permanence dans cet état naturel ou dans un de ces états naturels, hein, puisque nous l'avons vu, c'est un ou plusieurs états de conscience modifiés. Et à partir de là, encore une fois, l'inconscient travaille. Alors, nous avons la définition également, enfin du moins quelques lignes toujours de Jacques O'Hara, qui nous dit qu'il lui semble donc que l'hypnose peut être appréhendée comme une manière d'être avec soi-même, ainsi qu'avec l'autre qui nous a hypnotisés, dans un état de focalisation aiguë de notre conscience qui est centrée soit sur les phénomènes intérieurs, physiologiques et psychologiques, soit sur ce que l'autre nous communique verbalement et corporellement. Alors ça, c'est moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a juste quelque chose qui me gêne un peu, mais qui est peut-être pas si faux que cela, c'est une manière d'être avec soi-même ainsi qu'avec l'autre qui nous a hypnotisés. Alors pour certains patients, comme pour certains sujets, effectivement, l'interaction avec l'hypnothérapeute, donc avec vous-même, sera plus ou moins importante. Pour certains, ça sera totalement neutre, il n'y aura pas d'interaction, peu importe qui vous êtes, finalement, il va travailler entre guillemets avec lui-même, même si vous êtes là pour le guider. Et d'autres, effectivement, recevra de votre part plus d'empathie, plus d'affect, et les utilisera à sa façon, de façon consciente ou inconsciente, pour travailler. Bref, l'état d'hypnose, l'hypnose, le travail en hypnose, l'hypnothérapie, encore une fois, c'est un état particulier de conscience, un état naturel, c'est un travail avec nous-mêmes que parfois nous faisons de façon guidée, hein, puisque nous allons dans un cabinet pour nous faire hypnotiser et pour travailler avec un hypnothérapeute, mais en même temps, et ça nous l'avons tous connu, nous l'expérimentons quasiment au quotidien, c'est un travail que nous faisons naturellement tous les jours. Nous recevons ces affects, nous les travaillons et nous avons tous, notre inconscient, pardon, les travaille et nous avons tous réussi à sublimer des comportements de façon consciente, parfois en y mettant un peu plus de pensée positive, plus de pensée dynamique, un peu plus de volonté. Et parfois de façon inconsciente, nous avons tous réussi à sublimer des comportements, réussi à modifier certains comportements par cette technique toute simple qui est en nous, qui est naturelle. Voilà, à bientôt pour un prochain podcast.